Bonsoir. Les cours n'ont toujours pas repris dans plusieurs écoles de la RDC, 2 semaines après la rentrée officielle du 5 septembre. Les enseignants sont en grève. Ils réclament l'augmentation de leur salaire sur base de l'accord de Mboudi. Les fonctionnaires, eux aussi, ont emboîté le pas. Sommes-nous là alors devant une crise sociale? Au Nord Kivu, entre-temps, certaines troupes de FARDC changent de poste d'attachement sans instruction de leur hiérarchie. L'état-major à Goma signale à plusieurs centaines le nombre de militaires qui ont abandonné leur poste. Qu'est-ce qui indique ce mouvement de troupes? Chaque vendredi, vous en avez maintenant l'habitude. Dialogue en Congolais revient avec les confrères journalistes sur les principaux points qui ont marqué l'actualité de la semaine. Pendant 4 semaines, Dialogue en Congolais a reçu dans sa tribune de presse le directeur de la Radio Fontaine et éditeur délégué de l'hebdomadaire Le Fédéral. Christophe Kalenga intervient dans ses dialogues entre Congolais à partir de la ville de Lubumbashi. Claude Moukeba, journaliste à la RTNC, sera avec nous au studio. Et nous avons aussi Lubunga Biambe, correspondant de BBC Afrique, qui aujourd'hui remplace son collègue Arnaud Zaitna. Grève des enseignants en RDC. Depuis le 5 septembre, la date de la rentrée scolaire, le cours n'ont toujours pas repris dans plusieurs écoles, je vous le disais. Les fonctionnaires viennent de rejoindre le mouvement de grève des enseignants. Lundi dernier déjà, les élèves ont marché à Kinshasa pour soutenir leurs enseignants. Notre consoeur Adia Kipoukou a rencontré ses élèves dans la rue, écoutant l'objet de leurs plaintes, de plaintes qu'ils avaient emmenées devant le ministre de l'enseignement primaire secondaire et aussi devant le vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba.
On a parlé avec le vice-président, il nous a écoutés. Il nous a dit que non, il n'est pas insensible de tout ce qu'on a dit. Il a compris tout à l'heure, là, il aura réunion avec le ministre du budget, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, et puis le ministre de finances. Comme ça, ils vont se concerter. Et on a délégué deux de nos élèves qui vont assister à la réunion pour nous communiquer ce qui va se passer. Mais il nous a dit que non, il va trouver une solution pour nous.
Et qu'est-ce que vous avez dit au vice-président?
Non, on a dit que non, on voulait étudier. On veut que le vice-président puisse payer le professeur. Étant donné que c'est lui qui s'en occupe, parce que c'est lui qui s'occupe du finance. Parce que étant donné, nous sommes l'avenir de demain.
Est-ce que vous croyez maintenant à la promesse du vice-président?
Oui.
C'était plutôt notre confrère Claude Kamanga qui interviewait les écoliers qui étaient partis voir le vice-président en charge de l'économie et finances. Mais avant de retrouver nos invités au studio, on va quitter Kinshasa pour savoir la situation à Kikuit où nos auditeurs nous suivent en direct sur la fréquence 103.5, la fréquence de Radio Okapi à Kikuit. Et sur place, nous avons Fabien Kambinzi, correspondant de Radio Okapi. Fabien, est-ce que les cours ont repris pour le cas de la ville de Kikuit où vous vous trouvez maintenant?
Oui, merci Franklin. Tout d'abord, pour répondre à votre question, je vous dirais que nous sommes presque à la deuxième semaine de la rentrée scolaire conformément au calendrier du ministère de l'EPST. Et si les écoles privées agréées ont repris les cours à Kikuit et environ, les écoles publiques, tous les réseaux confondus, estiment qu'autant elles ont les devoirs envers l'État congolais, autant le gouvernement a des obligations envers elles. C'est pour vous dire, Franklin, que la grève des enseignants est vraiment observée ici à Kikuit. Ils attendent une réponse favorable de la part de notre gouvernement avant de reprendre les cours. Et je vous signale encore, Franklin, que hier, un sitting des enseignants de Kikuit à la mairie pour aller exprimer leur mécontentement pour non-paiement des salaires des accords de Mboudi n'a pas eu lieu. Les enseignants enseignants se sont vus empêchés de se rassembler pour matérialiser leur stratégie de revendication. Ils étaient bloqués au bataillon de commandement de la police mobile d'intervention afin d'éviter les débordements. Les professionnels de la CRE Franklin ont été rejoints par tous les comités de sécurité de la ville. Ils ont alors transmis leur mémorandum aux premiers citoyens de la ville à travers lesquels étaient consignés, entre autres, non, nos salaires de Mboudi, salaire décent, égale accord de Mboudi. Éducation égale droit, développement, rentrée égale salaire décent. Le maire Franklin, tout en prenant acte de leurs revendications, leur a signifié que le problème était général et que la solution devrait être nationale et non locale. Voilà, Franklin, la situation de la grève ici à Kikwit.
Merci beaucoup, Fabien Kambizi. Nous profitons pour saluer tous nos auditeurs et surtout les auditeurs de Dialogue entre Congolais. Dialogue entre Congolais qui passe à Kikwit sur la fréquence, je le rappelle, 103.5. On rentre ici au studio. Claude Moukeba, vous êtes journaliste à Radio Capu, je le rappelle, à Radio, la RTNC, Radio Nationale Congolaise, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Vous avez entendu la situation d'abord à Kinshasa, ensuite à Kikwit, et c'est comme ça dans l'ensemble du pays. En fait, c'est une crise sociale.
Ah oui, c'est une crise, et on le disait il y a une semaine déjà, c'était une crise. Je notais aussi la semaine passée que si on s'y était pris avant, peut-être qu'on aurait pu éviter cette crise. On a dit aussi que c'était par défi que le ministre de l'enseignement supérieur, enseignement primaire et secondaire et professionnel, avait décidé finalement de la rentrée le 5, alors que quelques jours avant, les enseignants avaient dit qu'ils n'iraient pas, qu'ils ne reprendraient pas. Mais par rapport à ce qu'on vient d'entendre, d'abord à Kinshasa, il y a quelque chose quand même que je note quand on pose des questions aux élèves. Et la dernière question, on leur demande s'ils croient en ce que le vice-président leur avait dit, si vous y avez fait attention, d'abord c'était une personne qui répondait à cette question, ça fait trois, c'est la première, une personne qui répond, mais on entend les autres comme faisant comme une espèce de cœur, on a l'impression qu'ils ne croient pas trop, ils disent, on va voir, on attend voir. Ça veut dire tout simplement que dans ce pays, déjà si les élèves ne croient plus, hein, parce que là ça veut dire qu'ils ne croient pas, ils attendent voir le gouvernement sous les actes. Parce qu'on va rappeler que ce qui fait problème aujourd'hui, ce sont des accords de Mboudi qui ont été signés par le gouvernement et non seulement les enseignants, mais les fonctionnaires, mais ça ne marche pas.
Vous venez de dire tout à l'heure que si le gouvernement s'y était mis avant, on pourrait éviter ce qui arrive maintenant. Comment pourrait-il s'y mettre avant?
Voilà, avant ça veut dire que avant le 5, les syndicats avaient déjà dit qu'ils n'entendaient pas reprendre les enseignements le 5 si les choses, si le gouvernement ne leur accordait pas le salaire de Mboudi. À ce jour, je ne pense pas qu'on va accorder le salaire, mais on est en négociation. On aurait pu engager ces négociations avant le 5 et les choses se seraient passées normalement.
On quitte Kinshasa pour Lubumbashi. Christophe Kalenge, vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Je rappelle que vous êtes directeur de la Radio Fontaine et éditeur délégué de l'hebdomadaire Le Fédéral. Pensez-vous vraiment qu'on est vraiment là devant une crise sociale?
Effectivement, nous sommes devant une difficulté évidente. Il y a là une injustice sociale, ou plutôt une justice sociale à deux vitesses. On constate que à formation égale, à prestation égale, et plutôt traitement salarial inégal. On ne comprend pas que dans ce pays, aux richesses immenses, on en soit là à des gesticulations et à des pantalonnades à la limite du ridicule, voyez-vous. On sait que, alors que le président Laurent Désiré Kabila était sous embargo, il avait réussi à ses soldats au maximum de l'armement.
Nous avons une difficulté de liaison. Nous avons une difficulté de liaison avec Christophe Kalenge. En attendant que cela s'arrange, on va rentrer ici au studio. Ici au studio, nous avons Lubunga Biambe, qui est correspondant de BBC Afrique. Vous venez là d'entendre la situation à Kikwit. Vous connaissez bien la situation à Kinshasa, zone de votre couverture. Est-ce qu'on peut dire qu'on est là devant une crise sociale? Merci beaucoup. Moi, ce que je note dans cette situation, particulièrement ici à Kinshasa, c'est la montée des enfants au premier plan. Et les élèves qui ont manifesté devant le bureau du ministre de l'enseignement primaire et secondaire et puis devant le bureau du vice-président de la République. Moi, je me pose la question, est-ce que les enfants sont allés de manière spontanée ou bien ils ont été organisés par les parents ou bien par les enseignants? Et j'en déduis que c'est une sorte de démission parce que les premiers partenaires dans cette affaire, ce sont les parents, les pouvoirs publics et les enseignants, qui sont tous, on peut dire, des parents. Maintenant, si on arrive à mettre les enfants pour que les enfants aillent négocier ou, je ne sais pas, participer à une réunion où on va discuter du budget de la République, je ne sais pas d'abord ce qu'ils vont saisir dans cette discussion-là. Et cela me montre que il y a une démission d'abord de la part des pouvoirs publics qui ont signé les accords qui ne seront pas honorés et puis qui sont eux-mêmes des parents. Et là, je reviens plusieurs années en arrière, quand moi-même j'étais encore élève, les toutes premières grèves que j'ai eu à observer, c'était vers les années 78. Et on nous disait déjà à l'époque, moi j'étais chez nous au village, on nous disait que les enseignants sont mal payés parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas leurs enfants, ne sont pas concernés directement par l'enseignement dans leur propre pays parce que leurs enfants étudient loin d'ici. Et je me rappelle à l'époque, le président Mobutu Sese Seko avait pris la décision le bureau politique, je crois, avait décidé que tous les enfants des dignitaires zaïrois à l'époque devaient rentrer pour étudier au pays. Ça n'a duré que quelques années parce que le problème des enseignants ne date pas d'aujourd'hui.
Et donc, pour vous, vous pensez que ces problèmes-là, c'est parce que les dirigeants actuels n'ont pas leurs enfants qui étudient au pays, ils s'en foutent un peu de ce qui se passe dans le pays en matière d'éducation. C'est ça?
Moi, je crois que c'est de ça qu'il s'agit, c'est purement de l'irresponsabilité.
Mais comment expliquer justement qu'au moment où le gouvernement congolais prend la responsabilité de payer le fonctionnement et de payer les enseignants, c'est en ce moment-là qu'il y a grève
Alors,
Claude Moukeba.
Oui, il faut préciser qu'il y a grève parce que le gouvernement n'a pas seulement pris la décision de payer le fonctionnement des établissements d'enseignement, mais surtout il a décidé de supprimer la prime, comment on appelle ça, la prime des parents. Alors, vous allez constater que cette prime, comparée au salaire que touche l'enseignant, c'est à la limite parfois 10 fois le salaire. C'est là justement le problème. Le gouvernement décide d'allouer les frais des fonctions. C'est tout à fait normal, on devrait les donner depuis toujours. Mais on supprime cette paye. L'autre fois, peut-être que Christophe va le rappeler ici, il disait à Lubumbashi par exemple, c'était entre 100 et 150 dollars. Voyez-vous, on vous reprend 100 dollars et on double votre salaire. C'est vrai qu'on donne les frais de fonctionnement, mais le salaire qui est quand même doublé, ça fait, si vous touchez par exemple 5 000, vous avez 10 000, on vous dit que vous avez doublé, mais on vous reprend 100 dollars ou 120 dollars. C'est là justement le problème. C'est comme ça que les enseignants disent, ok, les parents ne doivent pas nous payer, mais vous donnez et le frais de fonctionnement et vous nous payez correctement selon les accords de Mboudi. C'est donc là le problème.
Et pensez-vous, Lubunga Diombé, que effectivement c'est un problème des enseignants qui veulent bien garder ce qu'ils avaient avec la prime des parents?
Moi, je pense que c'est un problème de dysfonctionnement au niveau du gouvernement parce que les négociations de Mboudi ont été conduites par un vice-président de la République qui est chargé des questions sociales, je crois, Arthur Zaïdi Ngoma. Et quant à l'application, il s'agissait maintenant qu'il était question que celui qui est chargé des finances voit comment appliquer ça. Or, le vice-président Zaïdi, comment est-il arrivé à prendre des engagements sans savoir si l'État avait les moyens d'honorer les mêmes engagements? Je crois qu'il y a quelques jours, il a fini par reconnaître que non, il n'était pas en mesure d'honorer ces engagements-là. Alors ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au sommet.
Mais l'accord de Mboudi ne disait pas qu'on allait directement arriver à un palier de 208 dollars du coup. C'était la paix qui devait suivre des étapes, des paliers, pour aboutir finalement à 208 dollars.
Oui, oui.
Et donc,
ouais.
C'était un problème de suivi, c'était un processus.
Il fallait d'abord commencer par le premier palier, parce qu'ils se sont attendus, je crois, sur 3 paliers, et les enseignants notent qu'il n'y a même pas un palier qui est engagé.
Mais effectivement, dans le problème du gouvernement, je pense, c'était un problème d'arriver, ne serait-ce qu'au point d'exécution de l'accord de Mboudi.
Déjà,
là, il n'est pas encore arrivé.
Déjà, du premier palier, on va dire que 208 dollars, je crois que c'était l'achèvement, mais à ce jour, selon les accords, on devrait déjà arriver à 200. Mais même le premier palier, On n'en est pas encore.
Alors, maintenant, avec justement la prise en charge de l'État, est-ce qu'on ne voit pas qu'on arrive quand même au point d'exécution de cet accord, c'est-à-dire le premier palier qui commençait par environ 25 dollars.
Et puis, moi, je note que la décision ou bien les négociations de Mboudi se sont déroulées dans un environnement où l'Église catholique n'avait pas encore annoncé la décision de supprimer la prise en charge des enseignants par les parents. Parce que c'est l'Église catholique qui avait initié cette pratique il y a 10 ans et qui a décidé, il y a quelques mois, de supprimer la prise en charge. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont entrés en ligne de compte, mais qui ne se sont pas suivis de manière cohérente.
Nous allons quitter Kinshasa pour rejoindre notre confrère Christophe Kalenga, qui intervient depuis Lubumbashi. Je pense maintenant la ligne s'est améliorée et que maintenant vous pouvez répondre à notre question. Pensez-vous au niveau des Lubumbashi que la grève des enseignants est vraiment une crise sociale? Ça paralyse la vie sociale?
Je disais tantôt là que c'est une véritable crise sociale. C'est une question hyper sensible. Ça paralyse naturellement le fonctionnement des écoles et tout ce qui touche à l'école, donc touche à toute l'ensemble de la communauté. Et à Lubumbashi, on a vu, seules les écoles privées avaient ouvert leurs portes, mais jusque-là, les écoles officielles et celles du réseau catholique et conventionné protestant n'ont pas encore ouvert les portes. C'est un problème. Et je disais tout à l'heure, avant l'interruption de la ligne, hein, je disais que c'est une difficulté évidente qui prouve, hein, qui fait ressortir à la face du public la justice à deux vitesses qui existe dans ce pays. On ne comprend pas qu'à formation égale, à prestation égale, il y a un traitement inégal. Vous avez des gens aujourd'hui qui viennent d'être nommés mandataires de l'entreprise publique ou je ne sais quoi là-bas, mais qui s'étaient des faramineux salaires à la fin de chaque mois, mais pendant que leurs collègues qui sont dans l'enseignement, avec la même formation, mais ils ont droit à un salaire ridicule, à la limite de l'injure, on dirait, parce que là, vous avez des enseignants qui survivent ou à qui on demande de survivre avec 20 dollars par mois. Et tenez bien, 20 dollars. Mais entre-temps, avant que ce salaire-là ne leur parvienne, il y a ce qu'ils appellent, ou ce qu'on appelle les coupes sombres. Ce sont des amputations qui sont faites à partir de Kinshasa déjà. Je vais vous donner un exemple. Quand l'ordre de paiement ou l'ordre de virement est donné à partir de Kinshasa, ça je le tiens du président du syndicat des enseignants du Katanga et qui est président également de tous les syndicats du Katanga. Il dit que quand l'ordre de virement est donné, eh bien, les enseignants doivent en supporter les frais. Quand ils vont percevoir l'argent à la banque, on leur dit, eh bien, vous devez donner autant pour l'ordre de virement. Vous devez donner autant pour l'ordre de paiement. Vous donnez autant pour la signature. Ça s'appelle ça coupe sombre. On dit que tout cet argent est amputé à partir de Kinshasa.
Effectivement.
Dans les banques sur place ici. Et vous voyez là, il y a un malaise social. Et donc, ce sont des choses ridicules. Et à la fin, au bout de tout, à la fin du circuit, l'enseignant se retrouve avec parfois 2000, 3000 francs partie de son salaire.
Christophe Kalenga.
C'est ça qui est bizarre. Hein.
Christophe, vous venez là de reconnaître que c'est un vrai problème, un problème social, un problème d'injustice, mais en fait, les enseignants pour le moment exigent la mise en application de l'accord de Mboudi, et on sait que l'accord de Mboudi, c'était un accord, en fait, c'était un processus qui avait un point d'exécution et un point d'achèvement. Le point d'achèvement, on le sait, c'est 208 dollars. Mais jusque-là, le gouvernement n'avait pas encore été au point d'exécution. Alors, si aujourd'hui le gouvernement dit, je vous prends en charge sur base de l'accord de Mboudi, mais au point d'exécution, est-ce qu'on n'est pas encore là dans la logique normale de l'acte des accords, de l'accord de février 2004?
Oui, ce serait comme marcher à reculons. Je crois que le temps est largement dépassé. Le gouvernement doit être suffisamment responsable pour commencer par le point d'achèvement. C'est lui-même, le gouvernement, qui se met dans cette position-là. Je le disais encore. J'ai dit qu'on a toujours tendance à dire qu'il n'y a pas de l'argent. Mais on sait que toutes les régies financières, l'OFIDA, l'OCC, la DGU, la DGC, la DGRAD, mais ça fonctionne à plein régime. Où passe tout cet argent que des impôts et tout, que les Congolais sont en train de payer, donc les contribuables. Même si on dit que, bon, les Congolais ne payent pas l'impôt, mais ils payent indirectement, naturellement. Je ne suis pas économiste pour expliquer tout ça, mais on sait comment ça fonctionne. Il y a de l'argent, je crois. Il faut que l'État commence à payer ces salaires-là par le point d'achèvement. C'est lui-même qui s'est mis dans cette position-là. Je disais ceci.
on a vu qu'il n'y avait pas de l'argent. Alors que Laurent Désiré Kabila s'est trouvé sous embargo, on l'a vu, il a payé à ses soldats 100 dollars par mois. Où est-ce qu'il tirait cet argent? Mais parce qu'il avait tout simplement canalisé les circuits financiers internes, de sorte qu'il n'y avait pas, il y avait presque pas ou peut-être moins de gestion que maintenant. Aujourd'hui, la communauté internationale est en train de donner de l'argent. En même temps, le pays produit et ça travaille. Et donc, il n'y a pas lieu de dire qu'il n'y a pas de l'argent. Naturellement, il faut que l'État paye en commençant déjà donc par le point d'achèvement. On ne saurait plus commencer par le point du début. Bon, ce serait marcher à reculons.
Christophe Kalenge, vous restez avec nous, on rentre ici au studio. On prend une deuxième partie de problème, c'est au fait l'entrée en jeu des fonctionnaires, les agents de la fonction publique qui rejoignent pratiquement les enseignants. Est-ce que ça ne donne pas... L'ampleur ne devient de plus en plus pas considérable et qui doit demander maintenant que ça soit pris au sérieux ce problème-là de l'accord de maudit. On rentre encore une fois à vous, Claude Moukeba, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio télévision nationale congolaise.
Oui, mais tout à fait, c'est que ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais je voudrais quand même préciser justement à propos de palier du point d'achèvement que si à ce jour, on se décide finalement de commencer. Déjà par rapport au temps, nous sommes en retard parce qu'à ce jour, on devrait déjà être au point d'achèvement. Deuxième chose, par rapport au premier palier, je me rappelle, ça fait quand même très longtemps, je me rappelle, si je ne me trompe pas, que le premier palier était fixé à 68 dollars. Et donc, si vous prenez les calculs, tout ce qu'on peut donner, si même on arrivait à donner aux enseignants 20 000, parce qu'on parle de 15 000, on parle de 10 000, même si on leur donnait 20 000 ou 25 000, nous ne sommes pas à 66 dollars. Donc 66 dollars, c'était le premier palier, c'était depuis très longtemps. Donc en termes d'argent, de somme, aussi en termes de temps, nous sommes très en retard. Alors maintenant, si je dois considérer avec les fonctionnaires, comme vous dites, mais c'est tout à fait normal que ça va se compliquer davantage. Et si le gouvernement arrive à résoudre le problème des enseignants, ça veut dire qu'il est obligé à résoudre aussi le problème des fonctionnaires. Et ils sont en train de regarder ces fonds qu'ils ont déjà lancés, mais ils regardent aussi les négociations avec les enseignants. Ça marche, ça devrait marcher aussi pour nous. Si ça ne marche pas pour eux, donc, ça ne va pas non plus marcher pour les fonctionnaires et c'est la crise généralisée.
Vous pensez qu'il faudrait, pour exécuter l'accord de Mboudi, prendre son point d'achèvement, c'est-à-dire 208 dollars pour un huissier, 2080 dollars pour le secrétaire général, le plus haut gradé, on n'a pas un budget conséquent. Est-ce qu'on n'est pas là, on ne doit pas tenir compte justement
tout
de ces contraintes budgétaires?
Tout à fait, je disais Franklin en début d'émission que si on s'était pris avant, je ne dis pas qu'à ce jour, on est obligé de payer 208 dollars, mais il faut négocier et on aurait pu faire ça avant. Je suis sûr, je crois à mon sens. C'est vrai qu'on dit généralement qu'il y a beaucoup d'argent, mais c'est quand même difficile à mon sens à ce jour qu'on arrive à payer aux huissiers 208 dollars dans ce pays. C'est quand même à ce jour un peu difficile.
Lubunga Biambé, je rappelle que vous êtes journaliste correspondant à BBC Afrique. Vous venez d'entendre le point de vue des uns et des autres. Il faudrait prendre l'accord de Mboudi non à son point d'exécution, mais au point d'achèvement, c'est-à-dire 208 dollars pour un huissier et 2080 pour le secrétaire général le plus gradé. Comment interpréter ça au regard du budget?
D'abord, au sujet du budget, c'est depuis le début de cette transition qu'on nous dit que le budget du gouvernement congolais est supporté à plus de 50% par l'extérieur. Et chaque fois, nous, des médias, nous annonçons qu'il y a eu telle partie de la dette qui a été annulée, il y a eu tel financement qui vient de l'extérieur. Je me rappelle encore l'histoire de 7 milliards de dollars qui avait ramené le vice-président Jean-Pierre Bemba à Paris et c'était vraiment un triomphe au niveau du gouvernement. On nous avait dit que le Congo venait de bénéficier, je ne sais pas, d'un don ou de quoi, de 7 milliards de dollars.
Non, en fait, c'était le financement d'un programme pénétreur.
Oui, mais tout ça, l'opinion apprend qu'il y a de l'argent qui rentre et qu'on est financé de l'extérieur, ainsi de suite, mais tout cela ne retombe pas chez le citoyen moyen. Et il n'y a pas que les fonctionnaires aujourd'hui ou les enseignants qui sont concernés, il y a une catégorie de fonctionnaires qui, eux, n'ont pas le droit de faire une grève, ce sont les militaires. Ils sont très nombreux dans le pays et
ils sont aussi mal payés. Je me rappelle, au début de cette semaine, le chef d'état-major général de FARDC, le général Christian Pierre, disait qu'il était lui aussi fonctionnaire et qu'il se trouvait dans la situation des fonctionnaires. Mais ces militaires-là qui sont mal payés, ces militaires-là qui ne sont peut-être même pas payés, ceux qui sont dans les coins les plus reculés, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen de revendication? Ça nous ramène à l'insécurité dans le pays si le gouvernement ne prend pas l'affaire vraiment à son niveau de sérieux.
Mais c'est vrai qu'il y a un problème social, il y a un problème sécuritaire parce que les militaires sont aussi concernés par l'accord de Mboudi puisque fonctionnaires. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter cet accord de Mboudi? Faudrait-il le prendre au niveau d'exécution, c'est-à-dire au niveau le plus bas pour évoluer au regard de budget, ou il faudrait prendre au niveau d'exécution le niveau le plus haut et écraser, asphyxier le budget national?
Moi, je pense qu'on ne doit pas prendre l'accord de Mboudi comme une fixation. Comme j'ai dit tout à l'heure, cet accord a été négocié par... Il y a 4 vice-présidents, il y a un vice-président qui a négocié, les autres ne l'ont pas suivi dans sa logique. Moi, je pense qu'il faut de nouvelles négociations carrément.
De nouvelles négociations qui ne tiendront plus compte, qui va faire table rase.
Absolument.
On rentre à vous, Christophe Kalenge. Vous intervenez depuis Lubumbashi, je le rappelle, que vous êtes journaliste, directeur de la radio Fontaine sur place. Pensez-vous qu'il faudrait tenir compte de l'accord de Mboudi et le prendre au point d'achèvement au risque d'asphyxier le budget national qui, je le rappelle, est de 1 milliard 800 millions de dollars, où il faudrait, comme vient de suggérer Lubunga Biyombé, faire table rase, reprendre des négociations sur de bases nouvelles?
Qu'est-ce qui va nous rassurer? Que si on reprenait d'autres négociations, les résultats de ces négociations seraient pris en compte. Et si on ne sait pas respecter la signature d'un vice-président, c'est une personnalité de l'État au plus haut sommet de l'État, si on ne sait pas respecter les engagements pris par un vice-président, est-ce qu'on saura respecter les engagements pris par quelqu'un d'autre, même s'il s'appelle lui aussi vice-président? Et donc, je crois qu'il serait mieux, pour le gouvernement, afin qu'il fasse sérieux, il serait mieux de respecter l'accord de Mboudi, je l'ai dit tout à l'heure, de faire, disons, d'appliquer l'accord à l'étape où il devrait l'être à ce jour. Comme à ce jour, il devrait l'être au point d'achèvement et donc de l'appliquer au point d'achèvement. On a toujours tendance d'alléguer qu'il n'y a pas de l'argent. Mais ces mandataires des entreprises publiques qu'on a nommées tout récemment, j'ai suivi sur RFI, je crois, quelqu'un disait qu'ils ont entre 14 000 et 20 000 dollars par mois. Est-ce que cet argent-là a été prévu au budget de l'État qui devrait recevoir cet argent? On fait prévaloir le budget de l'État que s'il s'agit des autres, mais quand il s'agit des ministres qui se paient des farineux de sommes pour des frais d'émission et tout, ou primes, je ne sais quoi, là, il n'y a pas de problème de budget de l'État ou d'étouffer le budget de l'État. Il faut étouffer le budget de l'État quand il s'agit de payer les autres.
Alors, Christophe,
je crois que c'est un malaise social. Déjà, les fonctionnaires, s'ils sont ralliés au mouvement, ça va montrer que la situation risque d'empirer si le gouvernement ne prend pas à bras-le-corps le problème.
Christophe, si je résume votre point de vue, c'est qu'il faudrait à tout prix évaluer le salaire de fonctionnaires et des enseignants sur base de Mboudi, et quel que soit le budget, l'État doit s'arranger à trouver de l'argent pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où l'État peut s'approvisionner en argent.
Exact.
Merci beaucoup. On va aller dans la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que Dialogue entre Congolais chaque vendredi revient sur le point d'actualité, le point qui ont marqué la semaine avec le confrère journaliste. Aujourd'hui, nous avons 3 journalistes. Christophe Kalenge qui vient d'intervenir. Il intervient depuis Lubumbashi. Claude Mukeba, journaliste à la Radio-Télévision Nationale. Et Lubunga Biyombé, correspondant à BBC Le 2, qui interviennent ici au studio de Radio Okapi sur place. Au Nord Kivu, je le disais tout à l'heure, les désertions au sein des forces armées nationales prennent de plus en plus d'importance. Depuis 3 semaines, de mouvements de désertion sont enregistrés dans au moins 5 bataillons des FARDC. Un nombre important de soldats ont fui la 82e brigade, ancienne 12e brigade, du territoire de Rutshuru à 76 km de Goma. Le point de la situation avec notre consoeur Gisèle Cage qui est sur place à Goma et on revient avec nos invités pour détails et analyses.
La plus récente désertion a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi au sein du 821e bataillon basé à Rwindi dans le territoire de Rutshuru. Ces bataillons mixtes étaient chargés de sécuriser la route Rwindi-Kanyabayonga. Environ 300 éléments de ces bataillons mixtes ont déserté de leur position après avoir dépouillé leurs collègues ex-APC de toutes les armes lourdes. Selon des sources de la 8e région militaire, les soldats de ces bataillons et leur chef, le major Baudouin, se serait dirigé vers Nyonzalé, toujours dans le Rutshuru. Au courant de la journée de mercredi, d'autres défections venaient d'être signalées dans le rang de 825e et 823e bataillons de Nyamilima et Ishasha. Par ailleurs, le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche, entre 150 et 300 soldats du 824e bataillon ont déserté de leur position à Katalé. Ces soldats auraient rejoint les maquis de Laurent Kunda vers Kichanga dans le territoire de Masisi. La toute première défection était enregistrée le 25 août dernier vers Mousso dans le territoire de Masisi. Elle concernait tous les militaires du 883e bataillon. Jusqu'à ces jours, on ne connaît pas la destination de cette unité. Selon les autorités militaires du Nord Kivu, les défections enregistrées dans les rangs des FARDC ne concernent que des militaires d'expression Kinyarwanda, tous de l'ex-ANC. Leur nombre n'est pas encore connu. Ces militaires auraient accepté de suivre volontairement ou sous la pression leur commandant de bataillon qui serait en direction de la région où s'est réfugié Laurent Kunda. Entre-temps, des militaires qui ont renoncé à suivre le déserteur arrivent progressivement à Goma, escortés par les éléments du contingent indien de la MONUC. Ils sont environ 200 jusqu'à maintenant.
Gisèle Cage, notre correspondante sur place à Goma, qui nous faisait le point de la situation de mouvement de troupes à l'est de la République. Claude Moukeba, vous venez là d'entendre des militaires qui quittent le poste sans instruction, qui rejoignent d'autres postes. On dirait même qu'ils sont en train de suivre l'ex-général insurgé Laurent Kunda. Comment vous interprétez tout ce mouvement de troupes?
Première chose, c'est que nous n'avons qu'un début d'armée. Hein. Nous n'avons pas encore une armée comme on voudrait. C'est à peine un début d'armée. Et moi, ce qui me désarçonne quand même, c'est que on vit des vagues de désertions. Donc, nous en sommes, on peut en énumérer, c'est pas jusqu'à 5, 6. La première remonte à il y a 2 semaines, on en parlait ici. Mais la hiérarchie militaire doit quand même savoir pourquoi ils partent et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne continue pas.
Pour la hiérarchie militaire, en tout cas pour le chef d'état-major, il s'agit d'une intoxication. Donc, les militaires sont intoxiqués.
Oui,
alors, quitter l'armée.
Tout à fait. Parce qu'on le sait, mais qu'est-ce qu'on fait pour contraindre ceux qui intoxiquent? Ils doivent se trouver dans l'armée, je suppose. Et pour avoir l'information, je crois qu'on peut l'avoir, à moins que l'armée ne donne pas l'information pour des raisons d'escrocs de défense. Mais il y a des loyalistes, il y a des gens ici qu'on a escortés qui ont refusé de partir. Ces gens quand même peuvent donner l'information.
Mais comment vous interprétez justement tout ça? C'est vrai que ça pose des problèmes, ça soulève des questions. Mais ces questions mènent à quoi justement?
Oui, mais c'est tout simplement qu'il y a un désordre déjà dans l'armée de ce côté-là, et ce qui profile à l'horizon, c'est que, comme on dit, tous presque, ils prennent la même direction, tous presque, on suppute, qu'ils seraient en train de suivre Laurent Kunda. Donc il faut s'attendre à ce que, comme on disait déjà il y a 2 semaines, je crois, qu'il aurait fait parvenir un message au gouvernement comme quoi il se préparait à attaquer, je pense. Au lieu de continuer à tergiverser, l'armée doit se préparer. Le gouvernement doit donner des moyens pour ce côté-là. On se prépare déjà à toute éventualité.
Christophe Kalenge, vous venez d'entendre le reportage de notre consoeur Gisèle Cage sur la situation à l'est du pays. Comment vous interprétez cette série de mouvements, de troupes, cette série d'abandons de postes au Nord Kivu?
Ma lecture de fait sur cette question, c'est que notre armée...
Nous avons encore de soucis de téléphone avec Christophe Kalenge. On rentre ici à Kinshasa, à Lubunga Biombe. Comment vous interprétez justement ce mouvement de troupes, cette série de mouvements de troupes, cette série d'abandon de postes au Nord Kivu?
Moi, je note d'abord que s'il s'agissait seulement d'une intoxication, le général Kissimpia ne se serait pas déplacé pour aller sur place à Goma. Cela montre que c'est une affaire vraiment sérieuse. Je me rappelle aussi que quelques mois après la prise de pouvoir par l'AFDEL, il y avait un groupe de militaires d'expression Kinyarwanda qui s'était réfugié dans les montagnes d'Uvira vers l'Emera parce qu'ils avaient difficile à s'intégrer aux autres militaires. Il était question qu'ils soient, comme l'expression qui est aujourd'hui, brassés pour être envoyés dans d'autres coins de la République. Ils s'étaient opposés. Donc il se pose un sérieux problème d'intégration de certaines communautés au sein de l'armée. Maintenant, je note une troisième chose, c'est que tout ceci intervient au moment où le gouvernement ou bien l'armée congolaise a annoncé pour le 30 septembre l'ultimatum pour chasser les autres militaires d'expression rwandophone. Cela veut dire les combattants hutus qui sont dans les montagnes ou dans les forêts de l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que tout ceci est fait ou bien quelque chose est en train de se faire pour que, arrivé à cette date-là, on soit dans l'incapacité de prendre une décision conséquente en rapport avec l'insécurité qui est sémée par les troupes, les combattants hutus dans l'est de la République démocratique du Congo. Et il y a cette semaine, on a parlé d'une réunion, je crois, à Bruxelles ou à New York, au niveau des trois pays. Et pendant que tout cela se déroule, on apprend qu'il y a des rwandophones qui ne veulent pas s'intégrer, on apprend qu'il y a des désertions qui ne sont pas des désertions. Je crois que tout ça doit interpeller et surtout les gens qui sont au pouvoir et la direction de l'armée.
Vous avez là soulevé qu'il y a un problème d'intégration, il y a un problème justement de vouloir retarder l'échéance des rapatriements de FDLR, mais qui serait justement en train de manœuvrer sur tout ça selon vous?
Moi, je crois qu'il y a toujours eu des accusations de part et d'autre.
Juste que l'on sait qu'on cite le général Laurent Kunda. Mais est-ce que vous pensez que ça doit être simplement le fait du général Laurent Kunda?
Bon, si on peut croire en la première lettre de Laurent Kunda disant qu'il allait attaquer, pourquoi ne pas croire en cette deuxième lettre où il disait qu'il ne va pas attaquer? Moi, je pense que Laurent Kunda peut être utilisé soit par ceux qui... Je crois que Laurent Kunda peut être utilisé soit sans le savoir, ou bien il peut aussi se constituer un héros quelque part, mais il n'a pas en lui-même la capacité de faire ce qu'il prétend vouloir faire. Je crois que le problème se pose à un niveau beaucoup plus élevé, et les gens du FDLR, la direction politique des combattants Hutu, qui ont toujours bénéficié d'un appui et politique ou même matériel selon certaines sources de la part de Kinshasa, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe exactement entre Kinshasa et les combattants Hutus et est-ce que le régime en place au Rwanda veut aussi ce retour-là des combattants Hutus. Je crois que le problème se trouve à ce niveau-là.
Nous allons tenter encore de rejoindre notre confrère Christophe Kalenge qui intervient depuis Lubumbashi. Nous espérons que maintenant la ligne est rétablie. Christophe, si vous nous écoutez, comment pensez-vous, comment vous interprétez justement, c'était la question que j'étais en train de vous poser, la suite de mouvements de troupes, la série d'abandon de postes au Nord Kivu?
Oui, mon point de vue, je voudrais tout simplement corroborer les propos de mon confrère de BBC qui vient de parler Lubunga, c'est ça. Mais ici, je voudrais plutôt aborder un autre angle. Ce qu'il dit, l'analyse qu'il pose là-bas est extrêmement fondée. Et je voudrais plutôt dire ceci. En plus de tout ça, l'armée, notre armée, ne parle pas d'une seule voix. Vous avez le général qui s'inquiète, qui se déplace, et qui dit, bon, je me suis déplacé pour rien, il n'y a rien. Alors que, pendant qu'il tenait le même propos, un officier de la 8e région militaire, qui s'appellerait colonel Bindou, sur RFI, confirme qu'il y a des métiers, des mouvements de personnes, et donc des versions. Et là, il y a un problème. L'armée ne parle pas d'une seule voix, ça c'est en fait. Un deuxième fait, c'est que les troupes qui sont en mouvement là, que deviendraient-ils ou que sont-ils devenus? Jusque-là, personne ne sait dire la vérité, ou plutôt, on ne veut dire la vérité. On est en train de supputer, comme on l'a toujours fait. Mais bientôt, on sera là peut-être réduit à compter les morts. Jusque-là, parce que moi, je comprends que tout ça est à mettre en rapport avec les FDLR, l'ultimatum, etc. Mais lorsqu'il va en arriver le moment M ou l'heure H pour passer à le preuve de force, je crains que la population en paye les frais à cause de dommages collatéraux, comme disent les militaires, pour employer une langue de bois. Et donc, il y a là un problème. C'est que là, les politiques qui sont en train de tirer les ficelles, ils ne se rendent pas compte du préjudice qu'ils causent à la population. Il y a là beaucoup de gens, moi je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur peut-être des échéances électorales à venir, qui ont tendance à se positionner. Et la communauté Banyarwanda, ou qu'on appelle communauté rwandophone, j'ai l'impression, ou plutôt les militaires qui sont de cette communauté, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à s'auto-exclure pour pousser l'autre à la faute. L'autre, c'est qui? C'est Kinshasa. Pousser Kinshasa à la faute, eh bien, on va dire, quand le gouvernement va déclencher une opération contre eux, on va dire, c'est tous les médias du monde pour dire, voilà, le Congo est contre une communauté qui ne veut pas intégrer et tout et tout. Je crois que l'enjeu se situe à ce niveau-là.
Et vous pensez effectivement qu'il y a des politiciens qui tirent la ficelle après dans tous ces événements? Il y a des gens, des intentions malveillantes pour rallumer à l'est du pays?
C'est mon point de vue, oui, c'est mon impression, mais je souhaite que ce ne soit qu'une impression.
On va rentrer ici au studio, Claude Moukeba. Vous venez en tout cas d'entendre le point de vue, l'analyse de l'un des autres. Pensez-vous qu'il faudrait aller à l'étape actuelle, se concentrer sur la situation à l'est du pays pour effectivement prévenir une autre guerre éventuelle qui viendrait toujours dès là?
Absolument, absolument. Seulement, il faut bien se préoccuper de ça et il faut trouver des solutions et des vraies solutions. Déjà, si au sein de l'armée, on ne parle pas de la même voix, il y a quelque temps ici, au niveau du gouvernement, lorsque ça commençait, et c'était encore des dissonances. On a dit qu'il y avait, par exemple, le ministre de l'Intérieur qui exigeait des sanctions tout de suite à l'endroit de Nkunda, et le ministre de la Défense qui était plus ou moins conciliant. Par après, finalement, quand même, on s'est décidé, au niveau du gouvernement, de décider de la déchéance de Laurent Nkunda. On se disait que là, nous sommes en train de voir clair, on va aller dans la même direction. Il faut bien se préoccuper de ça, sinon on va se retrouver devant ce que Christophe craignait tout à l'heure.
Mais est-ce qu'on ne se retrouve pas pris au piège? Parce qu'on sait qu'en matière d'armée, il y a un Conseil supérieur de défense qui réunit tout le monde et c'est l'espace à partir duquel les décisions sont prises. Mais est-ce que ces conseils supérieurs de défense font son travail? Ou ce sont des ministres attachés aux intérêts de leurs composantes et entités qui prennent, selon les tendances, des décisions?
Si ce conseil ne le fait pas, donc ce n'est pas à mettre sur le compte des loges, à mon sens, pour ce conseil. Et ce conseil, il est dirigé par le chef de l'État. On regrette déjà que le gouvernement ne se réunit pas, mais quand même pour le Conseil supérieur de la défense.
Jusque-là, depuis sa création, il s'est réuni deux ou trois fois, seulement deux ou trois fois.
Et c'est bien malheureux. Et très souvent, d'ailleurs, quand on pose des questions au vice-président chargé de la défense, politique défense et sécurité, pour dire, mais il y a quand même beaucoup de d'insécurité de ce côté-là, du côté autrefois dirigé par le RCD, et c'est le vice-président ici du RCD qui s'occupe de ça. Il dit généralement, mais ce n'est pas à moi de décider, c'est au Conseil supérieur de la défense qui est dirigé par le chef de l'État, et que de temps en temps, il est minorisé là-bas. C'est le discours du vice-président, même des autres membres du RCD. Mais il faut bien qu'à l'intérieur, pourquoi ça traîne? Pourquoi on ne se réunit pas? C'est ça aussi ce qui dérange quand même. Parfois, on ne se réunit pas, les politiciens quand même viennent à la télé pour nous raconter ça. Mais à l'intérieur, faites quelque chose et trouvez des solutions.
C'est la fin de ce dialogue entre Congolais, de cette tribune de presse. Tribune de presse qui avait reçu Christophe Kalenge, qui est intervenu depuis le Lubumbashi. Christophe Kalenge est directeur de la Radio Fontaine et éditeur délégué de l'hebdomadaire Le Fédéral. Claude Moukeba, journaliste à la RTNC. Et Lubungabia Ombe, correspondant à BBC Afrique, qui remplaçait Arnaud Zaitman, qui était avec nous pendant plus de 3 semaines. Nous remercions cette équipe qui a pu participer avec nous en analysant les faits d'actualité pendant 4 semaines. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un autre panel de journalistes pour analyser les faits d'actualité de toute la semaine. Vous le savez, chaque vendredi, Radio Capi, Dialogue entre Congolais, revient sur le fait qui ont marqué la semaine, cette semaine. La grève des enseignants et le mouvement des troupes à l'est du pays avait constitué le point de discussion de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour un premier numéro de Dialogue entre Congolais de la semaine.